Chapitre 2. Sincèrement amoureux, Fabien avait reçu avec le plus grand ennui une confidence qui répondait à d'anciens soupçons, dissipés en partie par l'inertie de M. d'Hautefort. Il redoutait les qualités de son ami, encore plus les avantages d'un brillant mariage qui dépassait de beaucoup ce qu'il pouvait offrir. Toutefois, sur ce dernier point, il se rassurait assez facilement, car malgré sa modestie en parlant des origines de sa famille, il était fier de la bonne position acquise par le travail d'une génération précédente, position maintenue, développée par ses parents disparus et par ses propres efforts. Très ambitieux, très versé dans les questions financières et commerciales, il comptait arriver à une grosse fortune, mais il tenait à se marier selon ses goûts, nullement d'après les idées de son père qui aurait désiré pour son fils une union presque brillante. Par ce temps de démocratie enragée et si funeste, Fabien appréciait le nivellement des classes, ou plutôt se flattait que, dans la plupart des cas, les différences s'effaçaient après deux générations d'éducation. Très heureux que sa famille se fût élevée, il ne trouvait pas, malgré sa grande vanité secrète, qu'une alliance modeste mais honorable dût être écartée. Il aimait et se répétait « Aimer, c'est vivre, et si elle ne m'aime pas encore, elle m'aimera. Je lui plais, j'en suis certain. » Frédéric, avec son intelligence, sa finesse parisienne, sa gaieté, sera pour moi la compagne idéale. D'ailleurs, avant tout, elle me plaît. Il voyait aussi un élément de bonne entente dans ce fait qui lui apporterait beaucoup plus qu'elle n'apporterait elle-même. Pas autant que Gerbert, mais assez pour la flatter. Il n'était pas inscrupuleux et pensait que, s'il s'agit de conquérir une femme, aucun obstacle ne doit nous arrêter. Pourtant, il hésita à marcher sur les brisées de son ami. Il sentait que la délicatesse, après la confidence reçue, lui imposait d'attendre le résultat des démarches de M. d'Hautefort. D'autre part, en ne prenant pas les devants, il supprimait pour lui un appoint sérieux. La sensibilité de Frédéric pourrait l'entraîner trop loin ou l'affecter assez pour qu'elle hésitât, car Gerbert lui était certainement sympathique, autant par ses qualités d'homme que par la pitié qu'elle lui inspirait. M. d'Hautefort avait raison. S'expliquer lui-même, sans intermédiaire, mettait les chances de son côté. Mademoiselle Laura, qui aimait la marche, retournait chez elle à pied quand le temps permettait une longue promenade. Elle prenait invariablement la rue Bonaparte, traversait le jardin du Luxembourg et suivait l'avenue de l'Observatoire. M. d'Hautefort et Fabien l'accompagnaient parfois jusqu'à l'avenue en la plaisantant sur son invariable itinéraire. « Une manie !» disait-elle en riant, « mais avouez que la manie a du charme !»« Beaucoup !» affirma Gerbert, qui ne pensait pas à la manie et dont le ton mit en éveil la finesse de Frédéric. « Aurait-il pour moi un béguin ?» se dit-elle. « Pauvre homme, je ne le voudrais pas !» À partir de ce jour, elle refusa d'être accompagnée et disparaissait du ministère assez vite pour que, perdu dans l'animation du boulevard Saint-Germain, il fût impossible de la suivre. Fabien, dont la décision était prise, la rencontra dans le jardin du Luxembourg, tout rempli de fleurs printanières, dans une atmosphère qui porte à croire que le bonheur vous attend. Il lui parla très simplement, sans phrases exagérées, et vit aussitôt qu'en l'écoutant, elle s'épanouissait, bien qu'elle s'efforçât de prendre un air mécontent. « Parlez à mes parents, monsieur, c'est à eux que vous deviez d'abord vous adresser. Pourquoi à moi ?» La réplique étonna M. d'Auzac. Autrefois, elle eût été la réponse d'une jeune fille de condition supérieure à celle de Frédéric, et il jugeait sa démarche très appropriée, socialement parlant, à l'éducation de Mademoiselle Laurel. « Vous savez bien, s'empressa-t-il de répondre, que nous ne sommes plus à une époque conventionnelle. Nous, jeunes, nous décidons de notre sort. Conséquence d'une vie qui ne ressemble pas à celle de jadis. » « Ce n'est pas mon avis, répondit Frédéric avec un léger mouvement d'épaule. Vous plaidez mal cette nouvelle cause, mauvaise du reste. Si j'avais des enfants, je ne les voudrais pas émanciper pour écarter leur mère dans les circonstances les plus graves de leur vie. Êtes-vous si mécontente de moi ? À peu près, répondit-elle en riant. J'aime cet à peu près, et regardez autour de vous si tout dans la nature ne parle pas un langage indépendant. Voilà qui est trouvé, indépendant, dans un jardin archi-cultivé. Elle se moquait de lui pendant que le soleil lui paraissait doux, les fleurs caressantes et l'avenir plein de promesses. Fabien, ne voyant que de la taquinerie dans les réponses de Mademoiselle Loral, changea ses batteries. « En tout cas, savez-vous qu'en autorisant ma demande à vos parents, vous faites mieux que de m'encourager ?»«
Je sais. Au revoir. »«
Vous partez? Vous me laissez là? Nous avons tant de choses à nous dire. »«
Pas aujourd'hui. Ne me suivez pas !»
dit-elle en s'échappant. Il la regarda s'éloigner d'un pas leste, puis se retourner comme une gamine et lui envoyer un signe amical. Dans sa joie, il oubliait son ami. Quand il songea à lui, il se répéta que Gerbert, n'ayant aucune chance de réussir, ne pourrait lui en vouloir. Le fait de discuter la question prouvait le contraire, et malgré tout, sa conscience n'était pas tranquille. Il se rappelait l'amitié généreuse de Gerbert, les timides espoirs qui le rendaient intéressant, et convenait avec lui-même que, pris comme confident, il devait attendre le résultat d'une demande condamnée, selon lui, à un échec. Mais enfin, la faute était commise, et le soir, il se dirigea vers la rue Cassini. Monsieur et Madame Loral habitaient l'annexe d'une vieille maison, sorte de petit pavillon collé au mur, comme une grosse verrue, sur une cour triste et pauvre, bien que l'immeuble principal eût connu un meilleur sort. En bas de l'annexe, une assez grande pièce et des débarras. À l'unique étage, deux chambres. L'une ouvrait sur la cour, l'autre, éclairée par deux fenêtres, donnait sur la rue. Ce logis, dans son ensemble, était donc très mesquin, mais admirablement tenu par Madame Loral. « Ah !» disait son mari, « il ne faut pas voir un grain de poussière chez nous !» Il tapissait lui-même les pièces, aussitôt que les papiers, passés ou un peu salis, déplaisaient à sa femme. Très unis, ils étaient bien le type de ces ménages honnêtes, industrieux et d'esprit uniquement familial, comme il en existe tant en France. Lui, fils d'un petit employé, avait fait une partie de ses classes, mais sans goût pour l'étude. Il avait succédé à son père dans de modestes fonctions qui suffisaient à son ambition et s'était réjoui quand sa fille intelligente, travailleuse, avait brigué avec succès une place de sténographe au ministère des Travaux publics. « Elle est plus forte que moi !» disait-il avec fierté. Madame Loral, bonne ménagère, le cœur sur la main, entièrement dévouée aux siens, conservait le sentiment de son autorité. Aussi avait-elle très bien élevé sa fille, devenue la joie de ces braves gens. Dauzac avait mis de la discrétion dans ses visites, mais sans tromper la perspicacité de M. Loral. La demande en mariage fut accueillie avec réserve. « Il me faut des renseignements précis, » dit Loral à sa fille. « J'en ai déjà pris, voyant bien de quoi il retournait, mais je veux en obtenir du chef direct de M. Dauzac. »«
Très sage, cher père !»
Le jour suivant, Gerbert, fatigué du doute et jugeant sa timidité absurde, se détermina à parler. Il offrirait vraiment à cette jeune fille de grandes compensations. Ensuite, après une dernière conversation où l'intérêt de Frédéric pour lui s'était simplement et librement manifesté, il s'efforçait de croire que cet intérêt pouvait devenir de l'affection d'une vie entière. Il sortit avant elle du ministère et l'attendit sous les beaux arbres qui donnent un si grand air à l'avenue de l'Observatoire. « Une communication à vous faire, » dit-il en l'abordant. Étonnée et mécontente, elle s'efforça vainement de prendre un air hautain. « Pourquoi n'avoir pas parlé au ministère ?»«
Allons, nous y voilà, » pensa-t-elle.
Elle refusa de s'asseoir quand il le lui proposa, puis, se rappelant la fatigue chronique de M. d'Hautefort, elle se ravisa et fut émue en le voyant troublé, hésitant. Assis sur un banc auprès d'elle, il dessinait sur le sable des arabesques avec sa canne et ne soufflait mot, ce qui fit sourire la jeune fille qui saisissait très vite le comique d'une situation.
« Nous ressemblons à deux chiens de faïence, » dit-elle en riant. « Est-ce là toute la communication ?»«
Peut-être la connaissez-vous malgré mon silence. »
« Peut-être, monsieur.
Vous êtes trop clairvoyante, trop intelligente pour qu'il en soit autrement. Eh bien, mademoiselle, voulez-vous m'épouser ?» Elle avait craint une proposition illicite, bien qu'une telle démarche lui parût en désaccord complet avec son opinion sur la valeur morale de monsieur d'Hautefort. Mais son expérience lui rappelant plus d'une attaque, elle était toujours sur ses gardes.
La demande sans embâche de Gerbert lui plaisait, la flattait. En même temps, son excellent cœur se désolait d'être la cause d'un chagrin, car jamais ne lui serait venue l'idée d'épouser un infirme.
« Je suis extrêmement honoré de votre demande, monsieur. Mais non, je ne puis pas. »«
Vous ne pouvez pas ? Pourquoi ? Absurde question. »«
Je comprends. »«
Que comprenez-vous ? Vous vous trompez certainement. Je suis presque fiancée et vous l'ignoriez. »
« Fiancée ? Avec qui ?»
L'ardeur du ton troubla Frédéric. Elle se rappela à temps l'intimité des deux hommes, et si Gerbert s'était confié à son ami qui, lui, avait gardé le silence sur ses projets, une rupture violente, juste ou non, était à craindre.
« Qu'importe, vous le saurez quand de part et d'autre nous serons décidés. »
Même très sollicitée, elle n'eut pas prononcé le nom de Dauzac, mais M. d'Hautefort n'avait aucunement l'intention d'insister. Il était allé au-devant d'un refus et s'en blâmait.
« J'espère que nous resterons bons camarades, » dit-il tranquillement.
« Vous ne m'en voulez pas ?»«
Vous en vouloir, alors que vous demandez ma main comme si j'étais une belle dame ?»
Elle se vit dans un salon élégant, pensa qu'elle s'assimilerait admirablement à sa vie nouvelle, et cette certitude la fit sourire.
« Vous riez ?»
lui dit Gerbert d'un ton de reproche qui attrista aussitôt Frédéric, car elle le crut blessé.
Je souris en me voyant trôner dans un beau salon et jouer très bien mon rôle.
Vous n'auriez pas eu de rôle à jouer, mais à rester vous-même, répliqua-t-il simplement.
Votre mari vous donnera-t-il des satisfactions de ce genre ?
Mais oui.
Tous mes voeux de bonheur, mademoiselle.
Attendez, une question. Sans ce fiancé probable, votre décision à mon égard eût-elle été la même ?
Je regrette la question, dit-elle avec émotion, parce que ma réponse vous affligera. Et pourquoi cherchez-vous des blessures ?
Elle lui prit soudainement la main en s'écriant :
Merci, merci encore. Cette proposition d'un homme comme vous me laissera toujours un souvenir ému et flatteur.
Vous êtes bonne, mais n'ayez aucun souci à mon sujet. Mon espoir était si faible. À peine vos franches réponses sont-elles une déception.
Il la salua et, ayant un taxi, se fit conduire chez lui pendant que, très contrarié, Frédéric se dirigeait tristement vers la rue Cassini.
Je viens, dit-elle à sa mère, de recevoir une nouvelle demande en mariage et je suis désolée.
Encore ? Et qui donc ? Et pourquoi es-tu désolée ?
Qui ? Monsieur d'Hautefort, cet infirme dont je vous ai quelquefois parlé. Un homme si honorable et distingué que j'estime profondément, en partie pour les raisons qui le font paraître absurde aux yeux des autres. Je suis désolée de lui causer un réel chagrin.
Il t'aurait plu sans Monsieur Dauzac.
Me plaire comme mari ? À quoi pensez-vous ? Un infirme !
Cependant, il mène la vie de tout le monde.
« Certainement, mais il marche péniblement et souffre souvent, je crois, ou plutôt je le vois.
Et voilà que j'ajoute à son malheur. »
Elle pleurait presque, mais sa mère la calma. La plupart des hommes ont essuyé des refus et ne s'en portent pas plus mal avant d'obtenir une réponse satisfaisante. « Ton père est chez le directeur de la compagnie pour avoir des renseignements nouveaux sur M. Dauzac. »«
Ils seront bons, j'en suis sûre. »
M. Loral revint, en effet, avec la confirmation des précédents renseignements.
« Charmant garçon, m'a dit son chef immédiatement, travailleur, dans une aisance suffisante pour assurer la vie quotidienne et même l'avenir. De plus, il arrivera à une situation brillante parce qu'il est ambitieux et s'entend génialement aux affaires.
« J'aimerais mieux ni génie de ce genre, ni ambition, » ajouta le brave homme dont le bon sens ne fléchissait pas facilement.
« Vous auriez mieux aimé M. d'Hautefort, qui, s'il vous plaît, a demandé ma main aujourd'hui même. M. d'Hautefort, riche et de vieille famille. »
« Je connais sa réputation par un ami à qui M. d'Hautefort a rendu de grands services. Sa demande est venue trop tard. Quel dommage !»«
Ni trop tôt, ni trop tard. Il est infirme, vous le savez bien. » »«
Il boite, je sais. Il importerait peu s'il t'avait plu. Il est bon, très bon. »
« Monsieur Dauzac aussi, » répondit Frédéric, agacé.
Fabien ne plaisait pas beaucoup à M. Loral, mais il ne pouvait voir sa fille contrariée et s'empressa de répondre. « Les renseignements sont excellents, il te plaît, la cause est entendue. » Trois jours après, Dauzac apportait la bague de fiançailles, une émeraude entourée de brillants. « Toujours comme une belle dame, » pensa encore Frédéric. « Mais pauvre monsieur d'Hautefort !» Gerbert avait immédiatement repris avec elle ses manières de bon camarade, et Frédéric désirait qu'il apprît sans plus tarder que les fiançailles avaient eu lieu. « Votre ami connaît la grande nouvelle ? » demanda-t-elle à M. Dauzac, tout en admirant sa bague. « Demain, je la lui apprendrai, » dit-il avec une nuance d'embarras. Cette réserve entre amis déplut à Frédéric. Elle pensa aussitôt qu'il serait bien que Gerbert connût l'événement avant la visite de M. Dauzac. Il aurait ainsi le temps de dominer une émotion pénible. Elle ne quittait pas son poste avant la fin du mois et arriva au ministère avec sa bague au doigt. Il la verra et comprendra. Mais il avait précisément décidé d'aller au-devant d'une certitude. « Eh bien, mademoiselle, et ses fiançailles ?»« Définitive depuis hier, » dit-elle doucement en jouant avec sa bague. « Je vois. Montrez-moi. Elle est très jolie. À présent, vous ne cachez plus le nom ?» « Je ne cachais rien, j'attendais. J'attendais le bon plaisir de M. Dauzac. »« Comment ? M. Dauzac ? Dauzac, mon ami ?»« Oui, il vous annoncera la nouvelle ce soir même. Moi, je pense qu'il aurait dû vous en parler beaucoup plus tôt. »« Je l'attends, » répondit Gerbert, les dents serrées et cherchant à cacher son émotion derrière le froid laconisme de sa réponse. Mais Frédéric avait saisi cette émotion qui lui parut excessive, complexe et inquiétante. Le procédé de Fabien blessait au vif la délicatesse de M. d'Hautefort. Dans un moment d'expansion, il avait parlé de ses sentiments, de ses espoirs. Dauzac lui-même l'engageait à se déclarer et, d'une façon sournoise, sans attendre les suites de son conseil, il avait agi. Gerbert chercha à se calmer, mais reçut avec une vive répugnance la visite de son ami. « Je ne vous ai pas vu depuis quelque temps, Gerbert. Mes occupations se sont multipliées et... »« Et ?» interrompit M. d'Hautefort, dont la colère se rallumait. « Sachant que j'aimais Mademoiselle Loral, sans attendre le résultat d'une démarche que vous me conseillez, vous avez parlé. »« N'est-ce pas le droit d'un homme épris ?»« Et d'un ami ?» demanda Gerbert d'un ton si dédaigneux que Fabien rougit. Il discernait, ou croyait discerner dans le ton de M. d'Hautefort, le rappel de services et de bonté qui ne peuvent s'oublier. Il avait manqué de droiture, de confiance, et conscient de son erreur, il reprit « J'ai eu tort, je le reconnais, mais j'aime, faites la part du sentiment. » « Et du calcul, » répliqua froidement M. d'Hautefort. « Vous ne connaissiez pas les dispositions de Mademoiselle Loral et vous avez craint que l'offre d'un mariage, brillant par plusieurs côtés, ne l'influençât. »« L'amour craint tout, » répondit Fabien irrité. « Mais vous vous trompez. Je croyais connaître les dispositions en ma faveur de Mademoiselle Loral. » Gerbert, à cette réponse, fut envahi par sa timidité et ses doutes. Ridicule d'avoir cru qu'une sympathie, qualifiée à présent par lui de pitié, serait assez grande pour effacer la cause de cette pitié, comme un coup de plume efface une phrase imparfaite. Il eut en lui-même le mouvement d'un être qui cache sa tête humiliée. Ces dispositions en votre faveur, et que vous connaissiez, excusent un peu votre précipitation, Fabien. Moi, je n'aurais pas agi comme vous l'avez fait. Fabien, jusque-là, avait aimé son ami. Il chercha encore à modifier par sa franchise la mauvaise et profonde impression de M. d'Hautefort. « Je le crois, Gerbert, je le crois. J'ai souvent admiré votre droiture, supérieure à la mienne. Encore une fois, je reconnais que j'aurais dû attendre, que cette faiblesse n'altère pas notre amitié. Donnez-moi la main, voulez-vous ?» Il fallut un grand effort à M. d'Hautefort pour répondre cordialement. Mais il sentait amèrement qu'en insistant sur ses griefs, il serait ridicule, lui dont les espoirs avaient été si peu justifiés. Fabien, croyant avoir gagné la partie, jugea prudent de se retirer. C'était agir sagement, mais il laissait derrière lui une amitié perdue. une amitié dont il avait joui de toutes les manières. M. d'Hautefort, l'ayant jugé indélicat, cherchait en vain à se rattacher au souvenir d'une intimité qui avait largement participé à sa vie, et ses regrets étaient trop sérieux pour ne pas ressembler à une brisure. « Fabien, heureux, oubliera, se disait-il. Tant mieux pour le bonheur de Frédéric. Soyons circonspects avec elle. » Il vit le lendemain qu'elle l'observait avec inquiétude. Alors il lui dit gaiement « Vous avez fait un grand heureux, mademoiselle. » « Ah, votre entretien a été sans aigreur, » dit-elle en respirant librement. « Pourquoi de l'aigreur? Une rivalité, et le mot est trop gros, n'est pas nécessairement un crime aux yeux de les conduits. Il n'a qu'à féliciter l'heureux rival. » « Voilà, » répliqua-t-elle aimablement, « une sagesse digne de vous-même. » Pourtant, le mot juste de Frédéric portait. Il se sentait aigri, aussi bien à cause de la rivalité que du mauvais procédé ignoré de Mademoiselle Loral. Il ne planait plus orgueilleusement dans le secret de sa pensée et se rappela avec quelle facilité l'homme se pipe lui-même. Il s'irritait et s'émotionnait aussi en regardant la jeune fille. « Quand vous mariez-vous, mademoiselle ?»« Le 25 juin. » En quittant le ministère, il éprouvait le besoin de se reposer près d'une amitié. Il alla chez une amie de sa mère, Madame de Paulin, vieille femme aimable qui se tenait au courant des idées modernes sans trop gémir sur les différences de sa jeunesse avec les penchants nouveaux. M. d'Hautefort aimait son esprit indépendant. Il aimait aussi ses questions à brûle-pourpoint qui, venant d'une amitié certaine, le distrayaient sans le froisser. Elle le plaignait, se gardait de le lui laisser voir et s'efforçait de donner à leur rapport le naturel d'une véritable intimité. Elle lui dit tout à coup « Je suis intriguée, Gerbert. » « Par qui? Par quoi ?»« Par qui? Par vous. Par quoi? Par je ne sais quelle aventure qui se passe ou s'est passée dans votre cœur. » « En effet, dit-il légèrement, j'ai cru à la transformation d'une sympathie qui restera sympathie. Pourquoi ?»« Parce que cette sympathie se marie, répondit-il en souriant. » Il passa trop promptement à un autre sujet pour qu'elle se permît d'insister. M. Dauzac, qui lui avait été présenté par M. d'Hautefort, fréquentait avec plaisir son salon et vint lui apprendre son mariage. « Mademoiselle Loral, vous parlez d'une jeune fille particulièrement avenante qui travaillait avec Gerbert ?»« Oui, madame, vous la connaissez ?»« Je l'ai vue en allant chercher un renseignement au ministère. Comment, vous, l'avez-vous connue ?» Par Gerbert, précisément. Je m'étais mis dans la tête qu'elle lui plaisait beaucoup, mais beaucoup. Elle plaît à tous, mais comment voulez-vous que Gerbert se marie? Pourquoi pas, si tous les hommes qui boitent ne se mariaient pas, et puis Gerbert eût offert à cette jeune fille un mariage inespéré. Je sais qu'elle lui refusait, et d'abord son cœur est à moi. Croyez bien que notre ami a pris le bon parti en vivant seul avec son travail, ses pinceaux et ses amitiés. « Pauvre Gerbert » pensa-t-elle.